Les semaines peuvent ne pas être faciles, mais n'oublions pas que le Seigneur est toujours présent. Et c'est sa présence qui fait notre joie. La joie du Seigneur s'appuie sur la présence indélébile de notre Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu pour ma famille, reconnaissant à Dieu pour mon épouse, pour les enfants, reconnaissant à Dieu pour la famille de l'église de Créteil. J'ai un témoignage justement en fonction, en faveur de cette église de Créteil. Le jeudi de l'Assomption, c'est un jeudi férié bien sûr, c'est un jeudi aussi où je suis de permanence, les jeudis et les mardis. Et j'avais une rencontre le lendemain avec une équipe missionnaire des églises ménonites d'Allemagne, des États-Unis et de France, une équipe de 6 personnes que je devais recevoir ici. Et du coup, j'étais venu pour préparer un peu les choses. Et Dieu m'a suppli avec la visite d'une ancienne de cette église, d'une certaine Monique, dont j'oublie le nom, mais je pense que la plupart d'entre vous vous en souvenez, les anciens. Elle était là jusqu'en 99. Pas Solon, l'autre Monique. Monduc. Monique Monduc. Elle est de passage actuellement en France. Et elle avait rendu visite à Tina. Elle a dit à son fils, je veux voir l'église de Créteil. Ils sont venus jusque-là, ils sont descendus, j'étais dans la salle d'à côté. Et son fils se rappelait que c'est là qu'il avait fait l'école de dimanche. Et quand elle est rentrée dans cette salle, elle avait beaucoup de souvenirs d'ici. Donc je veux être reconnaissant à Dieu pour l'église de Créteil. Vous savez, l'église n'est pas juste un rassemblement de personnes. C'est une œuvre de Dieu, une œuvre puissante de Dieu. Il faut toujours s'en souvenir. Dieu nous met ensemble pour continuer de témoigner de son amour. Et elle se souvenait de tous les temps, de toutes les études bibliques, de tous les temps de communion fraternelle. Elle se souvenait de bien d'entre vous, les plus anciens, qui avaient ensemble avec elle fait l'œuvre de Dieu ici. L'un de nos plus jeunes frères, Aurélien, dans son remerciement, disait « Merci Seigneur, parce que nous avons la grâce encore de vivre dans un pays qui n'est pas persécuté. » Si nous ne sommes pas persécutés, vivons l'Église comme ce qu'elle est. L'Église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu sauvés, mis à part, qui doivent non seulement manifester l'amour de Dieu dans la communion fraternelle, cette communion doit être ancrée dans la réalité de nos relations de proximité, nos relations de partage, nos relations de soutien mutuel et de notre mission de continuer de proclamer, d'annoncer l'évangile de Dieu. Merci pour ce temps où nous avons pu adorer, chanter, et nous aurons encore le temps de le faire. C'est maintenant le temps d'être exposé à la parole de Dieu. Et j'aimerais ce matin nous entretenir sur le thème de l'ascension de Jésus-Christ. Mission accomplie. Mission accomplie. Je vous invite donc à méditer ce matin quelques passages qui vont nous encourager à vivre ce temps avec reconnaissance. Mais avant, j'aimerais partager un verset que notre sœur Eunice a partagé avec nous. Ce matin, il y avait aussi, c'est une reconnaissance à Dieu pour notre Église. Les ministères au sein de l'Église sont des ministères où il y a des hommes et des femmes qui se lèvent pour servir. Et en fonction de l'appel, on sert quelques années, plusieurs années. Et après, on peut passer aussi à d'autres ministères. Ce qui fait que parfois, il y a un jeu de chaises musicales qui parfois est en faveur de certains ministères. Et on peut dire peut-être en faveur, en nombre de d'autres ministères. Mais tout cela, c'est Dieu qui le fait. Parce que chaque étape de l'Église est entre les mains de Dieu. Et donc, j'ai été invité ce matin à participer à la réunion des moniteurs, des monitrices, je devrais dire, parce qu'il y en a plus que de moniteurs. Et donc, j'étais avec Eunice, Magali. Et puis, elles ont accueilli deux autres qui les rejoignent depuis peu. Elles ont accueilli Le Grand, qui a souhaité aussi se joindre à cette équipe. Et puis, elles ont accueilli Fabienne. Fabienne qui est une sœur en Christ, qui est là actuellement en formation. Elle est femme de pasteur. Son pasteur, son mari est en Guadeloupe. Elle a servi aussi pendant longtemps dans l'école du dimanche. Elle a rejoint cette équipe. Et j'étais content d'être là avec elle depuis 9h20, prier avec cette équipe pour bénir Dieu, parce qu'elle s'agrandit aussi. Même si Cindy n'a pas pu être là ce matin, elle sera là dimanche prochain dans cette équipe aussi. Et donc c'est le Proverbe 3. Elle a partagé plusieurs passages, mais c'est le Proverbe 3 que je veux laisser à toutes les mamans, en souhaitant que celles qui sont mamans, que vos enfants puissent vous manifester leur reconnaissance. Et comme Patricia l'a dit, cette reconnaissance, elle n'est pas liée à un jour particulier, même si c'est bien parfois de s'arrêter. Et vous savez, pour la petite histoire de la fête des mères, celle qui a lancé cette version de la fête des mères actuelle, c'est une Américaine, qui, lorsque cette fête des mères a pris une tournée commerciale, elle s'était levée contre cette tournée commerciale de la fête des mères. Elle a combattu la tournée commerciale de la fête des mères, parce que pour elle, ça ne devait pas être une fête commerciale. Ça devait être une reconnaissance. Parce qu'on commençait à faire plein d'articles pour les mères, des timbres, tout ça, et ça l'avait choquée. Et elle a monté tout un mouvement encore aux États-Unis pour dire non, nous voulons que les mamans soient reconnues, mais pas au travers de cet aspect commercial. Et ma prière, c'est que vos enfants reconnaissent ce que vous êtes. On dit souvent, quand on a le privilège d'avoir des bénédictions, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'elles sont là, tout simplement. Mais demandez à tous ceux qui n'ont pas de mère, ils vous diront qu'avoir une mère, il faut être reconnaissant à Dieu. Quelqu'un dit même parfois, si on a l'idée que notre mère n'a pas été une bonne mère, il dit parfois la mère c'est comme un couteau de cuisine. Parfois il peut blesser, mais on ne le jette pas forcément. Parce qu'on en a besoin, on fait plus attention. Et j'ai aimé cet artiste non chrétien qui disait, même si tu n'as pas été à la hauteur de mes attentes, tu as été là pour moi, tu as été ma mère. Et je prie que tous les enfants puissent être reconnaissants à leur mère, que nos enfants de cette église puissent être reconnaissants à toutes les femmes qui sont mères et toutes celles qui ne sont pas mères, dans le sens de ne pas avoir des enfants biologiques, vous êtes quand même mères. Dans le sens où il y a toujours quelqu'un qui est reconnaissant de votre vie pour lui. Et j'aimerais que vous puissiez avoir ce Proverbe 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps, un rafraîchissement à tes os. Continuez donc de vous confier en l'Éternel, chère mère. Continuez de vous appuyer, pas simplement sur votre intelligence, mais sur cette grâce que vous avez en Dieu. Gardez votre confiance en lui. Restez dans les voies de l'Éternel. Et il continuera de rendre votre sentier droit. Amen. Ceci est une introduction tout indiquée pour le thème de l'ascension. L'ascension veut dire la montée de Jésus au ciel. La montée de Jésus au ciel. Nous avons plusieurs textes. Nous lirons celui de Actes, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 12. Et je fais la lecture. Je pense que c'est dans la version Semeur. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, il retourna à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. C'est un jour particulier pour les disciples, c'est un jour encore de miracles, mais un miracle encore plus éclatant. Ils en avaient vu beaucoup pendant le ministère de Jésus, mais là, waouh, le texte dit qu'ils sont restés figés parce qu'ils ne comprenaient même pas ce qui se passait. Si c'est des bons juifs, comme c'est le cas, ils avaient entendu parler de cette histoire d'un prophète qui a été enlevé au ciel pendant que dans les chars. Mais on n'a nulle trace après cette évocation de quelqu'un qui se soit élevé comme ça dans le ciel. Dans Marc, le chapitre 16, versets 19 à 20, il est écrit, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » En Luc, chapitre 24, versets 50 à 53, il est dit, « Il est conduit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il est béni. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, il retourna à Jérusalem avec une grande joie. » Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Voilà autant de témoignages. Merci. Cette célébration arrive 40 jours après. 40 jours après la résurrection. Et parfois on se demande pourquoi 40. 40, c'est le symbole de l'épreuve. Hein? 40 jours de Jésus dans le désert. Et on a beaucoup de symboliques comme ça de 40 qui sont une symbolique de l'épreuve. L'épreuve où la foi est testée, où la foi est mise à l'épreuve. Parce que le Dieu dont nous parlons, il peut se manifester puissamment. Les gens disent, où est Dieu ? On veut que Dieu, on veut le voir. Mais c'est ce que Jésus dit un peu à Thomas. Il dit, Thomas, c'est parce que tu as vu que tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et ceux qui croient sans avoir vu, ça ne veut pas dire croire en n'importe quoi. Ça veut dire ceux qui croient que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Même s'ils n'en ont pas de manifestation particulière. Parce que qu'est-ce que Thomas a dit ? Il dit, c'est vrai les gars, vous l'avez vu, mais moi, j'attends aussi de le voir. Tant que moi, je ne l'ai pas vu, vous avez témoigné, c'est vrai. Mais je veux le voir. Et quand Jésus vient, Jésus dit, Thomas, viens. Approche-toi. Il dit, mon Seigneur, mon Dieu, dit, non, il ne s'agit pas de dire ça, Thomas. Tu vas toucher, puisque tu veux toucher. Viens, mets ton doigt dans mon côté. Comme ça, tu seras sûr que c'est bien moi. Et je pense que pour nous, dans des temps difficiles, dans des temps de doute, dans des temps d'épreuve, nous devons nous rappeler que le syndrome de Thomas n'est pas loin. Le syndrome de, mais Seigneur, je veux te toucher. Seigneur, je veux te toucher. Ce jour d'épreuve, ils l'ont vécu pendant 40 jours. Ils ont marché avec lui. Non seulement qu'il a démontré qu'il était bien celui qu'il était, mais dans un corps autre que celui qu'il avait avant la résurrection. Il a mangé avec eux, ils ont eu peur que ce soit un fantôme. Il dit, mais est-ce qu'un fantôme a la chair ? Moi, je suis de chair, j'ai un corps. Hein? Venez toucher. Donnez-moi à manger, vous allez voir, je vais manger. pour vous attester que je suis bel et bien de chair comme vous. Il a fait tout ça. Ils ont fait encore un petit bout de chemin missionnaire pendant 40 jours avec eux. Et quand le terme de ces 40 jours est arrivé, Jésus est monté au ciel. Mais il avait déjà annoncé, il avait déjà dit, vas-y s'il te plaît, ça. Il avait déjà dit qu'il monterait au Père. Jésus, fils de Dieu, est remonté vers Dieu le Père. Lorsqu'il commence son ministère, il affirme déjà qu'il remontera là d'où il est venu. Et les disciples vont s'en souvenir quand ils vont voir cet événement. Et les anges vont leur rappeler cet événement-là. Jean, vas-y pour les tests. Voilà. Jean chapitre 6, verset 58, je lirai quelques versets. Il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Verset 63, 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 65, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 5 et verset 28. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Verset 28, je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais au Père. Alléluia. Autant de témoignages bibliques qui, avant l'événement, affirme, dit ce que Dieu allait faire. C'est pour ça qu'Ésaïe a dit, à qui l'avons-nous annoncé? Il dit, j'annonce ces choses auparavant, j'annonce ces choses par avance, pour que quand elles vont se manifester, que vous sachiez que Dieu l'avait dit avant qu'il se manifeste. Donc Jésus avait dit déjà, comme il a dit pour sa résurrection, il a dit aussi pour sa glorification. L'ascension, c'est la glorification de Jésus. Il reprend tous les attributs du Dieu Tout-Puissant, Fils éternel qu'il est, quand il monte au ciel. Qu'est-ce que cela nous apporte de regarder ces textes? Une fois de plus, ça nous montre que quand Jésus dit quelque chose, sa parole est sûre. La parole de Jésus est sûre. Il ne le dit pas au moment où les choses se déroulent, il le dit bien avant, pour que quand elles se déroulent, que sa parole s'accomplisse. Cette parole qui dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit aussi. C'est un gage de confiance. C'est un gage de fidélité. C'est un gage de confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Se confier ici, c'est avoir confiance. Être dans une place forte, une place où on n'a rien à craindre. Parce qu'il est là. Il est allé au ciel, Jésus. Vas-y, Sarah. Quand nous lisons 1 Pierre et 1 Timothée, nous avons le témoignage des apôtres qui disent effectivement qu'il est au ciel. C'était Pierre qui parlait dans cette première épître, au troisième chapitre, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances, lui ont été soumis. C'est l'apôtre Pierre qui l'a dit. Il le confirme plusieurs années après que Jésus soit monté au ciel, parce que cette épître, il écrit quelques années après. Il confirme que ce Jésus qui est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Timothée, 1 Timothée chapitre 3, verset 16, dira: « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Élevé dans la gloire. Il n'était pas là, Paul, mais il a reçu ce témoignage des apôtres, que Jésus est élevé. Et il confirme la parole de l'apôtre Pierre, en disant que lui aussi, il a cette conviction, il a cette confirmation de la glorification de Jésus au ciel. Parfois, notre monde postmoderne, avec tout ce qui est scientifique, peut nous faire croire que ces récits bibliques, waouh, ça ressemble à des films de fiction, où les super-héros sont capables de s'élever du ciel et voler dans les airs. Superman, Iron Man, tous les man que vous voulez, il y a même des women dedans aussi. Non, nous ne sommes pas dans un film de fiction. Nous sommes dans la parole de Dieu, avec des témoins oculaires. L'apôtre Paul dira plus tard dans l'Épître aux Corinthiens, il y en a eu 500 témoins vivants qui l'ont vu ressusciter. Et tous ceux qui étaient là à cette élévation de Jésus l'ont vu, ils l'attestent. Pierre, Jean, tous les apôtres le disent. Jésus est monté au ciel. Devant ce mystère de la non-découverte du corps physique de Jésus, les religieux de l'époque, les chefs des peuples juifs, avaient leur version, et on la trouve lors de la résurrection de Jésus, lorsqu'ils disent aux soldats, voici la version officielle que vous devez dire à tout le monde. C'est que de nuit, ses disciples sont venus voler son corps, et ils l'ont emmené, on ne sait pas où. Donc c'est la version officielle qui court jusqu'à aujourd'hui. Si on ne le retrouve pas, c'est qu'il a été enterré quelque part, sans qu'on le sache. Parce qu'il y a quand même un mystère. Tous les grands hommes de l'histoire, on sait à peu près où ils ont été enterrés. Mais c'est Jésus. On sait la grotte là où il était. Mais il n'y était plus le troisième jour. Et on se demande bien où il est passé. Et les gens l'ont vu. 500 témoins oculaires l'ont vu ressusciter. 500 témoins oculaires. Alors que la Bible dit que le témoignage, il suffit de deux pour que le témoignage soit convaincant. Là, il y en a eu 500. Qu'ils l'ont vu ressusciter. Si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, bien aimé, si nous ne croyons pas qu'il est monté au ciel, notre foi a un problème. Notre foi a un problème. Je prie que Dieu nous aide par son esprit à croire que la parole de Dieu est vraie. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Aie confiance dans sa parole. Laisse-le te parler et tu verras. Ce dont il s'agit, ce n'est pas juste une fiction, c'est la vérité. Christ, mort, ressuscité et glorifié dans le ciel, assis à la droite de Dieu le Père. Vas-y. Le Nouveau Testament ne confond pas le ciel de Dieu et celui des oiseaux ou celui des étoiles. Parce que justement, la modernité a voulu faire de la foi, en tout cas dans ses récits bibliques, quelque chose de désuet. Parce que jusqu'alors, on n'avait pas encore franchi le seuil des nuages, jusqu'à ce que l'homme, créé en l'image de Dieu, il ne faut jamais l'oublier. La doctrine de la création dit que l'être humain a été créé en l'image de Dieu. Quand on dit l'être humain, on ne parle pas que des chrétiens, on parle de toute l'humanité. Il nous a créés à son image, il nous a donné cette intelligence qui est capable d'inventer. Donc toutes les inventions scientifiques qui apportent une plus-value à l'être humain viennent de Dieu. C'est Dieu qui le veut. Donc quand Dieu a voulu que les hommes soient capables de créer des engins qui vont au-delà du nuage, ils ont dit, oh, on allait au-delà du nuage, on n'a pas vu votre Dieu. Parce que l'idée, c'est que Dieu était au-dessus de ce que nous ne pouvons pas atteindre. C'était le ciel qui était au-dessus de nos têtes. Hein? Et quand on a franchi cette étape, on se dit, waouh, on a percé un mystère. Dieu n'y est pas. Donc ça a conforté ceux qui étaient des athées en disant, on pensait trouver quelque chose, mais en fait, il n'y a rien. Et quand on a percé le mystère au-delà des nuages, de la stratosphère, et qu'on a été capable d'envoyer quelqu'un sur la Lune, on dit, waouh! Dieu n'est pas là-bas non plus. On n'a pas vu de Dieu. Vous êtes un peu bête, vous qui croyez. Parce que Dieu, en fait, il n'est pas là-bas. L'univers est immense et il n'y a pas de Dieu. Et aujourd'hui, on est capable de voir, même semble-t-il, peut-être d'autres systèmes. En-delà de notre système solaire, avec ce mystère qu'on appelle le trou noir, qu'on est capable de voir avec de gros engins qui sont placés dans les déserts. Et ça continue de faire croire aux gens que Dieu n'est nulle part. Au contraire, moi, plus la science découvre des choses, plus ça me dit que Dieu existe, avec force. Parce que c'est quand même incroyable qu'il y ait toutes ces choses comme ça, avec des lois physiques qui tiennent dans l'univers. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On dit que tout bon scientifique, en fait, même s'il n'est pas croyant, il se dit quand même, je ne suis pas croyant, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tout est trop bien réglé pour que ce soit le fruit que d'un hasard. Il y a certains scientifiques qui disent, bon, je ne suis pas croyant, mais ce que je sais, ce que ma petite idée, c'est que effectivement, peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui a créé à un moment donné tout ça, parce que c'est tellement bien agencé, mais en fait, il ne s'en occupe plus. Donc on n'a pas besoin forcément d'avoir une relation avec lui. C'est pour se dédouaner un peu. Parce qu'au fond, Dieu est là, créateur de toutes choses. Et justement, le Nouveau Testament dit quand Jésus est monté au-dessus de tous les cieux afin de le remplir. Les cieux, c'est là où Dieu réside. Ce n'est pas une définition purement matérielle, physique. C'est là où Dieu réside. Or, la Bible dit que Dieu est un pur esprit que pour l'instant, nos yeux humains ne peuvent pas voir à cause de sa sainteté, à cause du fait que celui qui le voit dans cet état ne résiste pas. Tous les prophètes qui ont eu une révélation de la gloire de Dieu sont toujours tombés face contre terre. Ils ont toujours dit, malheur à moi, car j'ai vu Dieu et je ne suis pas sûr de rester vivant. Et il y a toujours eu un acte de sanctification pour que la relation, le dialogue continue. Hein. Ésaü a vu ce quelqu'un qui lui a porté un charbon ardent sur ses lèvres pour le purifier afin qu'il continue de demeurer dans cette présence extraordinaire. Jean Calvin, réformateur du XVIe siècle, disait que le ciel est le magnifique palais de Dieu, supérieur à tous les bâtiments du monde. Le ciel de Dieu. Si vous voulez vous en convaincre, regardez l'intelligence avec laquelle l'homme est capable de créer du beau. Il y a des endroits, franchement, quand vous regardez, vous dites, waouh, ils ont créé ça. C'est incroyable. On regarde les bateaux sur la mer, tu dis, mais comment ils ont fait pour créer ça, quoi? Et ça flotte en plus. Et parfois, c'est rempli de cargaisons immenses. Et ça flotte en plus. Et c'est l'homme qui est capable de faire ça. Qu'est-ce que celui qui a donné l'intelligence à l'homme a été capable de créer? C'est incroyable, hein? Si sa créature est capable de faire ça, qu'est-ce que lui, il est capable de faire? Voilà notre espérance, voilà notre joie, voilà notre reconnaissance, ce magnifique palais de Dieu. C'est un lieu exquis, un lieu que même nos yeux et les mots que nous emploions ne peuvent pas décrire pour l'instant. Et c'est pour cela que dans l'Apocalypse, ça nous est donné par image. Parce que nous ne sommes pas capables de décrire avec précision le ciel de Dieu. Ça nous dépasse. C'est ineffable. C'est inédit. Nous ne pouvons même pas imaginer la beauté, la qualité, la hauteur de ce lieu. C'est ça notre espérance. C'est pour ça qu'il dit, je ne vous mens pas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer à chacun une place. Quand elle sera prête, je viendrai vous chercher. Et il y a eu cette brochure qui, moi, m'a beaucoup impacté. Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? On peut avoir une lecture particulière de ce texte, mais l'une des lectures simplistes que j'ai, c'est quand Dieu vient prendre un chrétien, c'est que c'est son heure. C'est que la place qu'il a préparée pour lui est prête. Il vient le chercher. C'est ça sa promesse pour nous. C'est ça sa promesse pour nous. Alors, continuons de nous sanctifier, j'y reviendrai tout à l'heure. Merci. Il donne, pendant son absence physique, une mission. Sa mission est accomplie, il a dit sur la croix, tout est accompli. Il est avantageux pour vous que je parte afin que l'Esprit de vérité vienne, le Paraclet. Et le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, à chapitre 2. Pour faire quoi? Pour faire chemin avec nous, pour être notre coéquipier. Le Saint-Esprit est notre coéquipier. Dieu, Créateur tout-puissant, est ton coéquipier. Qui sommes-nous finalement? Pour que ce Dieu, Créateur de tout l'univers, s'intéresse à nous au point de vouloir marcher avec chacun d'entre nous. Et parce que nous sommes ses enfants. Parce que nous sommes ses enfants. Parce qu'il prend soin de nous. Il dit à Israël, il dit au peuple de Dieu, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et Jésus dit, s'il vous plaît, dit, notre Père qui est aux cieux. Car Dieu, le Créateur, il est notre Père céleste. Celui qui prend soin de chacun de ses enfants. L'œuvre de Jésus sur terre se poursuit pendant qu'il est absent, lui, Jésus physiquement. Son esprit est là, mais cette œuvre, dans cette continuité, c'est les disciples qui la continuent. Et on le voit tout de suite avec les premiers disciples, quand ils ont vécu ce moment extraordinaire, ils ne se sont pas dit, allons nous enfermer, attendant qu'ils reviennent. Non, en même temps qu'ils attendaient la venue du Saint-Esprit, ils ont continué la proclamation de l'Évangile. Ils ont continué la proclamation de l'Évangile et la venue du Saint-Esprit les a bonifiés dans ce travail de témoignage de l'amour de Dieu. Oui, l'ascension a mis un terme final à la mission terrestre de Jésus-Christ. Mission accomplie. Il a achevé parfaitement ce pour lequel il était venu sur la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Désormais, notre chemin est un chemin de bénédiction, un chemin ouvert, un chemin qui va vers le ciel. Il faut être convaincu de cela. Je ne suis pas juste un citoyen terrestre, je suis aussi un citoyen du ciel. Je vis ma vie ici avec toutes les responsabilités et les bénédictions qui sont liées à cette vie terrestre, mais je suis de passage. Moi, je vais dans l'éternité. Cette éternité, Jésus a ouvert la voie. Il m'y attend. Vous savez, quand vous faites des cérémonies de deuil, c'est là que vous réalisez que finalement, on est si peu de choses. Nous sommes des êtres humains animés d'une âme et cette âme va nous quitter un jour. Et ceux qu'on a perdu, leur âme les a quittés. Quand c'est des êtres chers, on ne réalise même pas qu'ils sont partis parce qu'on les voit là, ils sont là. Le corps, il est là. Tu vois le visage de la personne aimée, elle est là. Mais elle n'est plus là en fait, elle est partie. Nous avons bel et bien une âme en nous, bien-aimés. Cette âme, elle part. Et la Bible dit, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Il dit, c'est aujourd'hui qu'il faut répondre à cette question. Ce n'est pas demain, car demain, tu ne sais pas ce qui t'attendra. Mais c'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur, accepte Jésus. Parce que Jésus monte au ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il est à la droite de Dieu le Père. Vas-y. L'autorité exercée au ciel. Il préside son trône céleste. Jésus-Christ a été manifesté dans sa gloire, sa majesté, son empire. Il est assis. Ça signifie qu'une seule chose, ça veut dire qu'il trône, qu'il préside. Ce n'est pas qu'il soit assis physiquement, ça veut dire qu'il a repris son bâton de chef de l'univers. Il contrôle tout, il préside tout. Son règne suprême sur le monde et sur l'Église. Parfois on dit, est-ce que Dieu règne vraiment sur le monde? Bien aimé, si Dieu ne règne pas sur le monde, ça serait un chaos total. Si Dieu ne règne pas, ça serait un chaos total. L'échantillon, c'est les guerres que nous voyons. C'est ça, l'échantillon. Il faut réaliser que c'est parce que Dieu règne sur ce monde que nous ne sommes pas dans un chaos total. Ceux qui pensent le contraire, ils se trompent. Parce que si Dieu ne règne pas, ça serait la loi tout le temps du plus fort. Tout le temps la loi du plus fort. Celui qui est fort, il se lève avec ce qu'il a comme force, puis il agresse l'autre. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as rien à faire. Tu ne peux même pas te défendre. Heureusement. Et c'est pour ça que dans la Bible, il y a toujours cette invitation. Et Dieu se présente toujours comme le Dieu des plus petits, des veuves et des orphelins. C'est une image très forte. Il est le Dieu aussi de tous ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et si nous avons la paix, et si les guerres connaissent un terme, c'est parce que Dieu règne. Quand la folie des hommes éclate, Dieu finit toujours par mettre un terme à la folie des hommes, en leur faisant prendre conscience que ce n'est pas à eux de décider de la fin du monde, c'est lui. Tant qu'il n'a pas dit que c'est la fin, ça ne sera pas la fin. Demandez à tous ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, on se demandait comment ça va finir ça. Est-ce que ça va finir un jour? Et puis, c'est fini quand même. Et aujourd'hui, on célèbre l'armistice, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dieu règne, bien-aimé, il faut s'en convaincre. Il exerce des prérogatives divines, seigneuriales. C'est le médiateur. Le psaume 110, c'est un psaume aussi qui est c'est la trame de fond de cette expression des apôtres. Il est à la droite de Dieu. C'est là-bas que ça vient. Et c'est le Seigneur Jésus qui le dit lui-même dans un échange avec les pharisiens. Il dit, alors pourquoi David a dit, et il cite le psaume 110, psaume de David, déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte. Et du sein de l'aurore, tous les jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prête pour toujours selon le lignée de Malchitédek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête. Dans le chaos de la guerre, Dieu va établir son règne. Son règne est toujours à l'œuvre. Il est aussi médiateur. Il a dit aux apôtres, il est avantageux pour vous que je parte, pour que non seulement l'Esprit vienne, mais aussi pour être médiateur. Il est dans cette attitude d'avocat. Il empêche que rien ne sépare les enfants de Dieu de l'amour de Dieu manifesté en lui. C'est pour cela que nous avons été invités à prier en son nom, parce qu'il est notre médiateur. Dans la Trinité, c'est celui qui a ce rôle d'être un peu l'interface entre nous et le Dieu unique manifesté en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Il intercède pour nous. Il a endossé le rôle que les Juifs connaissaient du grand prêtre. Hein? Le grand prêtre, c'est celui qui était chargé chaque année, une fois dans l'année, le jour de la grande. Repentance du grand salut, le Yom Kippour. Et il y a le grand prêtre, il est le seul à rentrer dans le lieu très saint avec ce qu'on appelle le bouc émissaire, qui a donné bouc émissaire avec cet animal. Il faisait la prière pour que tout le péché du peuple soit porté par cet animal et on libérait cet animal dans le désert. Comme l'idée que le péché du peuple va loin du peuple. C'était une seule fois par an qu'on le faisait. Et l'Épître aux Hébreux dit, on n'en a plus besoin parce que Christ, il remplit ça pleinement. On n'a plus besoin de le faire chaque année. Il a fait une fois pour toutes. Et en lui, nous avons accès pleinement au Père. Chaque jour. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 365 jours sur 365 jours. Il est disponible. Il intercède pour nous. Que Dieu nous aide à profiter de cette ouverture que Jésus-Christ a acquis pour nous, bien-aimés. Vas-y. Comment manifester notre reconnaissance à Dieu? La consécration, bien-aimé. Tu aimes Dieu? L'apôtre Jean dit, tu dis que tu connais Dieu, mais les démons aussi connaissent Dieu. Quelle est la différence entre toi et les démons? Il dit, même les démons, ils connaissent Dieu, ils tremblent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent le terme que Dieu leur a réservé. Il dit, comment toi tu manifestes ta confiance, sinon le fait que tu crois en Dieu, il dit, c'est pas l'amour que tu as pour ton Dieu. Et cet amour, c'est la consécration, bien-aimé. Se consacrer, c'est être des imitateurs de Dieu. L'apôtre Paul n'a pas regardé comme une utopie, c'est-à-dire comme quelque chose de non atteignable. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis l'imitateur de Christ. On dit, où est-ce qu'on peut ressembler à Jésus? Pourquoi on s'appelle chrétien alors? Pourquoi on s'appelle petit Christ si on sait qu'on ne va pas ressembler à Jésus? Le petit Christ, c'est celui qui ressemble à Jésus. Que Dieu nous aide. Ma prière pour nous, pendant que nous célébrons, commémorons cette ascension, c'est que justement, il est monté pour nous donner tout ce qui est nécessaire pour lui ressembler en Jésus-Christ. Cette relation, cette consécration, c'est aussi éloigner du péché, mis à part pour Dieu. Ne livrez plus vos membres au péché, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Quand on se consacre, on se met à part. Il semble que nous, les évangéliques, on n'a plus de lieu sacré. C'est-à-dire qu'on n'a plus de lieu où qui soit réservé uniquement à Dieu. Bon, ça s'explique aussi. Hein. On n'a pas toujours les moyens d'avoir des lieux de culte monoservice. Nos salles de culte sont multiservices. Donc, dans la même salle, on fait le culte. Dans la même salle, on fait le repas fraternel. Dans la même salle, on fait de la gymnastique. Dans la même salle, on peut faire plein de choses, des jeux d'enfants, parce qu'on a cette liberté aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'en était pas ainsi, parce qu'une salle qui était réservée au culte était réservée exclusivement au culte. Exclusivement, parce que c'était le lieu, c'était en fait la pédagogie qui disait, quand vous réservez quelque chose à Dieu, ben ça doit être qu'à Dieu. Les ustensiles qu'on utilisait au temple, on les utilisait qu'au temple et à rien d'autre qu'à ça. Donc peut-être qu'il nous faut réfléchir à nouveau à certaines choses quand même. Hein? Un peu de relâchement dans la sacralisation, dans la sacralité de certaines choses. On n'est plus dans la logique catholique où le sacré a dépassé l'application de la vie chrétienne. Mais parfois, nous les évangéliques, on a jeté l'eau avec le bébé. Pourtant, nos vies sont le temple du Saint-Esprit et que nous sommes invités à vivre toutes les sphères de nos vies, joie, loisirs, travail, avec cette liberté d'être des enfants de Dieu. Autant, nous devons aussi vraiment faire attention à certains aspects de notre piété. Moi, je suis modélé comme ça. Moi, dès qu'il est 0h dimanche matin, dans ma tête, c'est un jour sacré. Je ne peux plus rien faire d'autre que de penser d'être dans cette dynamique. Et ça, c'est depuis que je me suis converti, depuis que j'étais étudiant, c'était comme ça. Je m'interdisais même d'étudier les dimanches matins. Je m'interdisais. J'étais un peu rigoriste, mais c'est cette idée du sacré, finalement. Ce qu'on a consacré à Dieu, on doit être attentif à ces choses-là, bien aimé. Soyez attentifs. Que vos vies aient des élans de sacré pour Dieu. Car notre Dieu est un Dieu saint. Mis à part. Jérémie, il a dit, dès le sein de sa mère, il a été mis à part. Il ne s'en doutait pas lui-même, jusqu'au jour où l'appel a été déclenché dans sa vie. Et Jérémie, quand il a souffert l'épreuve de son appel, il a dit, tout allait bien chez moi, jusqu'au jour où tu m'as dit, viens me servir. Tout a basculé. Ma fiancée m'a lâché. Et tout tourne au vinaigre, depuis que tu as déclenché cet appel. Mais c'est lui-même qui dit, dès avant le sein de ma mère, tu me connaissais, tu m'avais consacré. Donc finalement, il arrive à l'idée que c'est vrai, que peut-être le ministère qu'il a eu est un ministère délicat, mais c'est un ministère salutaire pour Israël. Pendant longtemps, les juges n'ont pas voulu reconnaître le livre de Jérémie comme un livre canonique, parce qu'ils avaient l'idée que c'était un antiprophète, que tout ce qu'il disait était contraire à la théologie de l'époque. C'est plus tard qu'ils ont compris que c'était un vrai prophète, parce que tout ce qu'il a dit s'est réalisé. Et si le peuple avait été attentif, peut-être que la souffrance ne se serait pas déroulée comme ça. Et il y a eu même les lamentations de Jérémie. On dit Israël pleure le jour parce qu'il n'a pas écouté la voix de son Dieu lorsqu'il était averti. Ayons l'oreille attentive, bien-aimés. Jésus est monté au ciel et nous a bénis. Soyons des chrétiens sensibles à la voix de Dieu. Soyons des chrétiens, ayons du discernement. Soyons attachés à notre Dieu. Ayons toujours ce sentiment de vouloir vivre quelque chose d'intime avec Dieu. La foi n'est pas une tradition stérile. c'est une relation avec le Dieu vivant. Jésus, notre Dieu. Et je termine avec ce texte, mission accomplie et mission continue. C'est nous qui continuons la mission, n'est-ce pas? Philippiens chapitre 2, versets 1 à 16. Il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Je prie que Dieu te donne, que Dieu me donne de briller comme un flambeau dans le monde.